Dans les jours qui suivirent, chaque fois que son père monta faire sa sieste, Fran en profita pour s'échapper de la maison et retourner rôder autour de la ferme biscornue. Elle prenait son vélo et s'élançait sur la route. Après 200 mètres de course folle, elle faisait demi-tour et revenait vers son véritable but.
« Ça y est, » ricana sa sœur, « tu es satellisée. »
« La sorcière t'a capturée. Il est temps que je me tire avant que tu ne deviennes une créature de Satan. » Je ne tiens pas à être là quand il te faudra t'accoupler avec les démons. Ce sera sûrement bien dégueu. Il paraît que celle du diable est couverte d'écailles et que ça fait super mal quand il te l'enfonce entre les cuisses. »
Franny feignit de n'avoir rien entendu. Elle détestait quand sa sœur se mettait à parler de choses sexuelles.
Quand elle arriva devant la clôture, elle aperçut la vieille qui parlait à son chat. Celui-ci, les oreilles immobiles, écoutait avec une attention troublante, comme s'il comprenait les mots prononcés par sa maîtresse. On eût dit qu'il allait lui répondre en langage extraterrestre ou que des rayons lumineux s'apprêtaient à lui sortir des yeux. Relevant la tête, la Shazam aperçut enfin l'adolescente et lui fit signe d'entrer.
« On raconte que tu es tout le temps fourré chez Bob Mulligan,
ce crétin de pharmacien, »
grommela-t-elle de sa voix rauque.
Il dit à qui veulent l'entendre que c'est la première fois qu'une cliente lui achète de l'aspirine en quantité industrielle.
« Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal à la tête? C'est pas les apothicaires qu'il faut voir dans ce cas-là. Leurs médicaments ne valent rien. Si tu me l'avais demandé, je t'aurais donné une médecine autrement efficace. » Obéissant à un signe de son hôtesse, Franny s'assit sur l'un des bancs. Elle se sentait molle, sans volonté. Quelque chose la poussait à se confesser. Elle se demanda si sa sœur allait la foudroyer au moment même où elle ouvrirait la bouche. Car parler à une étrangère constitue un acte de trahison, n'est-ce pas?
« J'ai des migraines depuis longtemps, » balbutia-t-elle. « C'est quelque chose qui se cache dans mon cerveau. Pas une maladie, pas une tumeur, non. C'est autre chose. »
« Je sais, » dit la vieille en s'asseyant lourdement sur une chaise bancale qui grinça sous son poids. « Je l'ai vu tout de suite. La migraine t'entourait d'une aura couleur flamme. Quelqu'un habite dans ta cervelle, n'est-ce pas ?»«
Comme un loir qui se serait fait une niche dans un grenier. » »«
Il crotte, il pue, et il finit par infecter tout ce qui l'entoure. »
Fran frissonna, terrorisée. Elle savait que sa sœur entendait les paroles de la mère Shazam. Dans une seconde, elle contre-attaquerait en la bombardant d'ondes douloureuses. « Une décharge électrique va me ravager l'esprit, » songea-t-elle. « Je vais tomber de la chaise, foudroyée, idiote à jamais. »«
C'est ma sœur, » murmura-t-elle.
Elle se venge de n'avoir pas pu naître normalement. Dans le quart d'heure qui suivit, elle s'étonna de la facilité avec laquelle elle exposait ses problèmes les plus secrets à une complète inconnue. Elle dit tout, sans rien cacher. Elle avait l'impression d'enlever sa culotte en public, mais curieusement, ce n'était pas désagréable.
« Que veux-tu au juste ?»
questionna la Shazam, assise de l'autre côté de la table.
« Tu n'es pas claire avec toi-même, il me semble. Tu veux que ta sœur s'en aille ou qu'elle reste ?»«
On dirait que tu n'es pas très fixée. »«
Je veux qu'elle fiche le camp !» Qu'elle cesse de m'empoisonner l'existence, cria soudain Franny, stupéfaite de son choix. Je ne veux pas qu'elle m'explose la tête en grandissant. Je suis trop jeune pour mourir. Une fois qu'elle sera partie, je récupérerai le bout de cervelle que je lui ai prêté et je redeviendrai intelligente. On cessera de se moquer de moi, j'aurai de bonnes notes, j'irai en fac,
La vieille sourit mystérieusement.
Son visage ressemblait plus que jamais à un fruit blette oublié sur la clé d'un séchoir.
« Je peux la chasser si tu veux, » fit-elle d'un ton calme.
« C'est dans mes pouvoirs ?»«
C'est vrai ?» dit Franny d'une voix blanche. « Je te dis que je peux t'en débarrasser, » répéta la Shazam.
« Mais comment ?»
La vieille sortit d'un tiroir un crayon mâchonné ainsi qu'un bout d'enveloppe jaunie.
« Écris son prénom, » ordonna-t-elle. Jette le papier dans le feu et tu seras débarrassé d'elle. Je connais certains secrets. Je sais y faire.
Mais elle n'a pas de nom, protesta Fran. Je ne l'appelle jamais. C'est elle qui parle toujours en premier.
Alors nomme-la, s'impatienta la vieille.
Si c'est toi qui lui donnes un nom, tu pourras t'en libérer plus facilement.
Franny prit le crayon, regarda la Shazam qui l'encouragea d'un signe de tête. Alors, elle écrivit le nom de sa sœur d'une main tremblante. Inarf. Voilà, dit-elle en tendant le bout de papier à la vieille, qui refusa de le prendre et recula comme si la feuille avait servi à envelopper 300 grammes de virus de la peste bubonique.
C'est à toi de le jeter dans le feu, énonça-t-elle. Il vaut mieux que tu restes la seule à connaître ce mot.
Si tu es sincère, mes pouvoirs vont permettre à ton vœu de se réaliser.
Franny s'approcha des flammes. Le morceau d'enveloppe fut réduit en fumée en l'espace d'une seconde.
À partir de maintenant, ta sœur se manifestera de moins en moins, assura la vieille femme. Elle s'affaiblira progressivement. Le maléfice va la plonger dans le sommeil, comme la belle au bois dormant. Elle sera toujours là, à l'intérieur de ta tête, mais assoupie. Maintenant, écoute-moi bien. Tu ne dois pas laisser qui que ce soit décider à ta place. Les filles d'aujourd'hui se croient fortes. C'est une erreur. Vous vous trompez. Le pouvoir n'est pas là où vous le cherchez. En singeant les hommes, vous ne faites que devenir aussi bêtes qu'eux.
Elle se tut, parut réfléchir et demanda dans un souffle. Qu'est-ce que ton père fiche ici ?
On ne pensait jamais le revoir.
Franny expliqua la soirée dans la forêt, la cabane des bûcherons, les mains rugueuses de l'homme sur son sein. Tout cela semblait bien loin aujourd'hui.
La conversation dériva sur les relations père-fille. Mais s'agissait-il réellement d'une conversation ? Par moments, Fran avait la fugitive impression de monologuer. Les mots coulaient de sa bouche sans qu'elle puisse rien faire pour les retenir. Elle se vidait, goutte à goutte, telle une cruche fêlée. Que se passerait-il lorsqu'elle serait vide ?
Ce n'est pas possible, songeait-elle. Ma langue va s'user. Au moment douloureux, sa gorge se serrait. Sa voix se chargeait de sanglots.
Elle sentait son larynx se nouer si fort qu'elle craignait de devenir bleue et de tomber raide, asphyxiée. Une fois rentrée chez elle, couchée sur le ventre, dans le secret de sa chambre, elle chercha en vain à se rappeler les réponses de son interlocutrice.
La Shazam l'avait écoutée sans marquer la moindre impatience. Immobile, minérale, elle s'était contentée de hocher la tête. Elle comprenait. Les femmes souffrent toujours par les hommes, avait-elle fini par murmurer comme une sentence sans appel. Oui, Franny se rappelait cette formule. Elle sentait son cœur battre plus fort quand elle la récitait. Elle n'était plus seule, et pourtant elle avait toujours peur. Toutefois, elle se sentait soulagée sur un point. Sa sœur ne reviendrait plus. Depuis les manipulations de la Shazam, la voix s'était tue. Le silence régnait dans son crâne. Elle s'agita, mal à l'aise. Une phrase de la vieille femme, formulée du coin de la bouche, continuait à la hanter. À un moment, dans la pénombre de la baraque, la paysanne avait murmuré quelque chose à propos de certaines mœurs contre nature entre père et fille.
« Je connais des fermes, avait-elle ricané,
où la mère a bien tort de ne pas emmener sa gamine avec elle quand elle s'absente. Les pères qui s'occupent trop de leurs filles, on sait ce que ça cache.
Les hommes sont des boucs, c'est dans leur nature.
Aucune barrière morale n'est assez forte pour les empêcher de faire le mal. Alors, les femmes doivent se protéger par la magie. »
Franny rougit. Elle se demanda subitement si la vieille avait essayé de lui faire comprendre que des bruits analogues couraient sur son père. Tentait-elle de la mettre en garde ?
Le pouls de la jeune fille s'accéléra. Le doute s'était insinué en elle.
L'attitude de son père prenait soudain une autre dimension.
Ne passait-il pas trop de temps à l'interroger sur sa vie sexuelle? Les images de la tentative de viol se matérialisèrent en flashs brûlants dans son esprit. Ces derniers jours, elle s'était pourtant efforcée de les oublier. « Ça ne se reproduira plus, se jura-t-elle. J'y veillerai. Au besoin, je demanderai à la Shazam de me protéger. » Avant tout, elle devait se faire soigner, combattre cette faiblesse tenace qui la laissait sans défense, à la merci du moindre étourdissement. La migraine avait disparu, mais pas ses effets débilitants. Mettant à profit la traditionnelle sieste paternelle, elle se rendit à la pharmacie du village. Dès qu'elle vit le flacon d'anacin posé sur le comptoir, Franny se sentit remplie d'une telle jubilation qu'elle dut surveiller sa respiration pour ne pas éveiller les soupçons du commerçant. Dehors, elle se précipita vers la fontaine publique pour avaler 4 comprimés. À chaque déglutition, elle pensa très fort « Hocus pocus » comme la vieille femme le lui avait conseillé. Quand elle se redressa, son regard s'immobilisa sur la croix dressée au sommet de l'église. Soudain, une question l'effleura. La Shazam crachait-elle sur les crucifix? Franny en eut l'intime conviction. Quelle obscure divinité la vieille femme implorait-elle les soirs de souffrance et de haute solitude? Quelle entité lui donnait la force dont elle débordait? L'incident eut lieu un peu plus loin, alors qu'elle contournait la place. Une paysanne à la soixantaine fatiguée rattrapa Franny sur la route et se mit tout à trac à parler de la Shazam, qu'elle appelait indifféremment la chenier ou la mère chenue. « C'est une espèce de nom français, expliqua-t-elle, imprononçable. » Son arrière-arrière-arrière-grand-mère faisait partie d'un convoi de putains amené de France pour peupler la Louisiane. Elle n'est pas de Purgatory. Elle vient d'un hameau voisin dont tous les habitants sont morts, victimes d'une épidémie. À cette époque-là, la chenier avait 16 ans. C'était une jolie fille. Pas farouche, d'après certains. Je t'explique ça parce que tu n'es pas de chez nous et que tu pourrais te laisser engluer dans ces boniments comme une mouche dans le miel. Je crois qu'il faut que quelqu'un ait le courage de te mettre au courant. Après tout, ton père est né ici. Une vraie fille de la ville, je l'aurais laissé se dépatouiller. Toi, c'est pas pareil. Fran fut sur le point de prendre la fuite. En prêtant l'oreille aux propos de la commère, elle avait l'impression de trahir sa bienfaitrice. Malgré tout, la curiosité fut la plus forte. La mégère hésita, douchée par le peu d'enthousiasme émanant de son interlocutrice. Après avoir dévisagé Franny, elle reprit son récit. Selon elle, la chenille avait sur la conscience tous les morts de Malastru, ce village désolé sur lequel la malchance s'était toujours acharnée depuis sa création. Elle les a tués, chuinta la commère, l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle. Alors elle s'est mise à jouer la survivante. Elle avait à peine 16 ans. Presque mon âge, pensa aussitôt Fran, tandis qu'une inexplicable excitation faisait vibrer ses nerfs. Elle a été foutrement habile, marmonna la paysanne. Elle les a fait passer sans qu'on puisse l'accuser de rien. On a dit qu'il s'agissait d'une intoxication due à l'eau polluée d'un puits, mais personne n'était dupe. D'ailleurs, qui se serait risqué à l'accuser? On avait déjà trop peur d'elle à l'époque. À force d'errer dans les bois et les cimetières, de visiter les sépultures indiennes, de dormir nue à la lueur de la lune rousse ou de contempler son image dans des miroirs fêlés. C'est qu'elle avait appris des choses, la chenier. Quand ceux de Malastru s'en sont aperçus, il était trop tard. Elle était devenue assez savante pour leur régler leurs comptes sans encourir les foudres de la justice. Franny et l'inconnue s'étaient arrêtés à un carrefour. Le vent soufflant des champs leur glaçait les jambes. L'adolescente serra les mâchoires pour ne pas claquer des dents. C'est le froid, se répétait-elle. Seulement le froid. La femme sortit un chapelet de son cabas et l'enroula autour de sa main avant d'ajouter. Elle n'a épargné personne. Ses propres patrons n'y ont pas survécu. Par la suite,
il s'est trouvé des paysans pour l'embaucher en dépit de son passé. Mais c'est surtout parce qu'elle avait la réputation de se laisser culbuter dans la paille. Tu comprends?
Aux yeux des hommes, c'est tout ce qui comptait.
Elle travaillait dur. Et elle était anormalement forte pour une femme. Souvent, elle s'occupait des bêtes malades.
L'expression attentive de l'adolescente parut encourager la matrone qui reprit.
Depuis, elle s'est tenue tranquille. Pourtant, tout le monde sait qu'elle pourrait recommencer. Aussi, méfie-toi, ne lui cause aucun tort. Ne réveille pas le loup qui dort. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire. Fais-en ce que tu veux. Moi, j'ai la conscience nette, je t'ai averti.
Sur ce, la femme tourna les talons et s'éloigna sans un salut, laissant Franny curieusement troublée. Par bonheur, l'absence de Fran était passée inaperçue. Elle consacra le reste de la journée et celle du lendemain à se remettre sur pied. Elle dévora ses repas, termina sa viande de bonne grâce. Puis, sous la surveillance de son père, elle descendit travailler au jardin
après s'être chaudement habillée.
En outre, deux pantalons n'étaient-ils pas plus difficiles à arracher qu'un seul? Depuis les mises en garde de la Shazam, elle préférait se montrer prudente. Sous ses jeans, elle avait passé un vieux Bermuda qui s'ouvrait de manière inhabituelle sur le côté. La pièce maîtresse de sa carapace consistait en un maillot de bain une pièce enfilé par-dessus ses sous-vêtements. Ainsi corsetée, elle alla affronter son père, ne le quittant pas de l'œil. Tout au long de la journée, elle s'arrangea pour conserver un outil tranchant à portée de main. Au cas où. Les paroles de la mère Shazam planaient dans son esprit. Les pères qui s'occupent trop de leurs filles, on sait ce que ça cache. Jusqu'à présent, elle n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle, mais elle savait qu'elle n'était pas assez intelligente pour penser à tout. Le morceau de cerveau alloué à sa sœur lui faisait cruellement défaut. Mine de rien, elle était devenue bête. C'était ça son drame. Elle faisait confiance à tout le monde. Elle avait pratiquement sauté au cou des jeunes ou Howard Johnson le soir du viol, et cela pouvait se reproduire. Par ailleurs, elle avait souvent surpris le regard de son père posé sur elle. Un regard bizarre qui n'avait rien de paternel. Un regard d'homme. Un regard d'inconnu avec une lueur déplaisante vite éteinte d'un battement de paupières.
Un regard sous lequel je me suis sentie comme un morceau de viande,
se dit-elle avec un frisson.
La Shazam connaissait la vie, elle. Il fallait l'écouter. On n'a pas le choix quand on doit fonctionner avec un cerveau amputé d'un bon tiers.
Les pères qui s'occupent trop de leurs filles, on sait ce que ça cache. Elle devrait se montrer vigilante,
conserver ses distances et se préparer au pire. En fin d'après-midi, un télégramme vint perturber les travaux de jardinage. Le contenu en était simple. Jeannette Monroe avait des problèmes avec les fournisseurs. Elle ne s'en sortait pas.
Je dois retourner chez nous, gronda Georges.
Ta mère ne saura jamais se dépatouiller. Inutile de se faire des illusions, on va la rouler dans la farine, et je perdrai encore un peu plus d'argent.
Je partirai à l'aube. Je réglerai ça en 24 heures. Tu vas rester ici, tranquille.
Ne t'avise pas d'inviter quelqu'un. Tout se sait dans les campagnes.
Si tu t'affiches avec le jeune crétin du musée, une bonne âme se dépêchera de me mettre au courant. »
Étrangement excitée à l'idée de se retrouver seule, l'adolescente éprouva de grandes difficultés à dormir. Georges Monroe partit à l'aurore. Franny fut réveillée par le grondement de la voiture. Ainsi, elle disposait d'une pleine journée de liberté. Elle n'en revenait pas. Sa décision était arrêtée. Elle en profiterait pour visiter l'ancien hameau de la Shazam, là où les mystérieux événements s'étaient déroulés. Avant de se mettre en marche, il fallait qu'elle en repère l'emplacement. Ce ne serait pas trop difficile.
Son père ne voyageait jamais sans une flopée de cartes d'état-major. La veille, elle avait subrepticement dérobé celle concernant Purgatory.
Elle étala le plan sur la table. Méthodiquement, en prenant le bourg comme point de départ,
Elle énuméra à voix haute les noms inscrits en lettres minuscules. Soudain, elle se tut. Elle avait trouvé. Pour elle seule, tout bas, elle articula d'une voix étrangement calme « Malastru. Ma-las-tru. » Oui, c'était ça. Un mot français imprononçable, presque un cri d'animal. Plus que jamais, elle éprouva le désir de fouler cette terre tragique. Chevauchant le vieux vélo, elle s'éloigna de la maison. Une dizaine de coups de pédale suffirent à la propulser en pleine campagne. Au cours de l'heure qui suivit, elle traversa trois hameaux en vérifiant qu'elle progressait dans la bonne direction. La carte précisait que Malastru se situait au bout d'une voie communale sans issue. Mais les bornes indicatrices se faisaient plutôt rares dans la région. Elle faillit en rater l'embranchement, car l'ancienne route se dissimulait sous un enchevêtrement de ronces. Courbée sur sa bicyclette, Fran distingua un panneau rouillé qui portait la mention « Étranger, passe ton chemin. Ici, nous ne donnons du travail qu'à nos enfants. » Le cœur battant, l'adolescente prit appui sur une pédale et se remit en selle. Le chemin était désert, les ornières ne conservaient aucune trace récente, aucun bruit mécanique ne troublait le silence. Enfin Malastru apparut, fidèle à sa légende. Les maisons se dressaient, masures aux toits effondrés, petits troupeaux de ruines pathétiques aux allures de champignons géants à demi effrités. Fran poussa la porte de la première cahute et sa gorge se serra comme si elle était sur le point de commettre un sacrilège. La solitude des lieux était si écrasante qu'elle en venait à regretter de ne plus entendre la voix de sa sœur. Parler avec quelqu'un l'aurait rassurée. Dans la maison délabrée, les restes d'un lit, les montants d'une armoire semblaient avoir subi le souffle d'une explosion atomique. Fran marcha jusqu'à la cheminée, effleura de son doigt la couche terreuse où galopaient des insectes. Cela sentait le feu de camp et le caveau. Un tombeau éventré par la foudre, se dit-elle. De grandes plaques de moisissure envahissaient les murs, dessinant des figures fantasmagoriques. Soudain, cédant à un élan de panique, la jeune fille se précipita vers la porte. Persuadée que le vélo avait disparu ou qu'il s'était spontanément changé en buisson d'épines pour l'empêcher de quitter Malastru. Par bonheur, la bicyclette se trouvait toujours là où elle l'avait abandonnée. Franz se traita de folle à mi-voix. D'une démarche plus assurée, elle visita rapidement les autres bicoques. Elles se ressemblaient toutes. Quand le courage lui manquait, l'adolescente jetait un coup d'œil par-dessus son épaule pour surveiller le vélo. Tant qu'il ne se métamorphosait pas en arbuste, rien n'était perdu, se répétait-elle. Donnant des coups de pied dans les débris de maçonnerie, elle ausculta une dernière fois les lieux. Pierre et tuiles roulaient, laissant parfois apparaître de menus objets. Une cuillère tordue, une anse de tasse, un goulot de bouteille. Fran se demanda si ces ustensiles avaient servi à empoisonner les habitants du lieu. Elle dut se retenir de les porter à sa bouche pour sentir le goût de la mort sur sa langue. Alors qu'elle allait se résoudre à enfourcher le vélo, un dernier coup de pied mit au jour une relique toute différente. Là, à la pointe de son pied, reposait une fine chaînette dont l'extrémité disparaissait sous les gravats. L'adolescente se pencha, saisit le bijou et tira doucement. La chaîne se tendit. Fran dut soulever un caillou pour libérer le trésor enterré. Au bout des maillons, elle distingua une montre ancienne. L'un de ces modèles à $1 que les cow-boys glissaient jadis dans la poche de leur gilet. Incrédule, elle secoua la tête. Quelle coïncidence! Comment était-ce possible? Cette montre ressemblait comme une sœur à celle que George Monroe consultait si souvent au magasin pour prendre ses vendeurs en flagrant délit de paresse. Le verre de celle-ci était brisé, mais l'aspect général restait désagréablement voisin. Au terme d'une brève hésitation, Franny se décida à ramasser sa trouvaille. Elle n'osa toutefois en effleurer le boîtier et se contenta d'attraper la montre par sa chaînette. C'était comme un gros coquillage de fer prêt à mordre.
Le remontoir joua docilement sous ses doigts sales, mais aucun cliquetis d'horlogerie ne se fit entendre. Sans qu'elle puisse dire pourquoi, elle en conçut un sentiment de libération qui l'emplit d'une joie insolite. Elle réalisait devant cette montre définitivement arrêtée qu'un signe capital venait de lui être transmis par une puissance obscure. Une induction trouble zigzaguait dans sa tête, tel un serpent dans l'eau boueuse d'une mare. « La montre d'un mort !» se répétait-elle. « La montre d'un homme assassiné par la mère Shazam. » Et c'était presque celle de mon père. Elle glissa l'objet dans la sacoche du vélo, jeta un dernier coup d'œil au hameau avant de s'éloigner. Une lueur douloureuse palpitait dans son esprit, un embryon d'illumination. Alors, subitement, la solution s'imposa, éblouissante. Si elle parvenait à jouir des mêmes pouvoirs que la mère Shazam, elle n'aurait plus rien à craindre de personne. De l'homme à la montre en particulier. Cet homme dont le visage d'abord flou se précisait de seconde en seconde. Cet homme qui avait déjà la stature et la démarche de son père.